Bienvenue. Bienvenue pour le 8e épisode de Déclencheur, le podcast qui parle photo. 3 segments dans cet épisode, l'édito qui sera consacré au format RAW, le segment principal qui sera consacré à l'exposition et à ses caractéristiques créatives, et le 3e segment consacré à vos commentaires et vos réactions. Notez dès à présent l'adresse du site web, www.déclencheur.com, c'est sur ce site que vous pourrez vous abonner et on supporte en choix de méthode d'abonnement, en particulier l'email, iTunes ou les autres agrégateurs RSS. Sur le même site, vous pourrez poster un commentaire, une réaction ou retrouver les liens présentés dans l'épisode. Le premier segment est donc consacré au format RAW. RAW, c'est ce format qui est disponible à côté du format JPEG sur les appareils moyens et haut de gamme. Le format RAW est en train de devenir de plus en plus attractif sur le marché. J'ai déjà l'occasion d'en parler, mais je crois que quand on regarde les annonces actuelles, il y a vraiment une volonté des constructeurs de pousser son utilisation et il y a de bonnes raisons pour ça. Si on regarde les annonces les plus récentes, Adobe est en train de finaliser Lightroom. Lightroom, c'est leur nouveau logiciel à côté de la gamme Photoshop destiné spécifiquement au traitement des fichiers RAW. La version bêta sur Mac est disponible depuis plusieurs mois, je m'en sers, elle est très très bien faite. Et une version Windows toujours en bêta vient d'être mise à disposition sur leur site. Photomécanique, qui est un logiciel qui n'est pas très répandu, mais qui est à mes yeux la meilleure visionneuse actuellement sur le marché, a été mis à jour pour supporter le développement des fichiers RAW, en tout cas sur macOS. Nikon a sorti une nouvelle version de leur logiciel de traitement de fichiers RAW, Capture NX, et en tout cas sur le papier, le produit a l'air extrêmement intéressant. Apple a sorti Aperture il y a quelques mois, et sur le papier de nouveau, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, ça semble être un produit très prometteur. Apple semble avoir particulièrement soigné l'interface et la logique du traitement d'un lot de fichiers. Enfin, en France, DX Labs a annoncé la version 4, pour le moment disponible en bêta, de leur logiciel DXO, qui est vraiment en train de devenir un logiciel complet pour le développement et le traitement des fichiers RAW. Alors bien entendu, à côté de ces nouvelles annonces, les classiques restent toujours disponibles. Donc Adobe Camera Raw pour Photoshop reste toujours disponible. Capture One de Phase One reste toujours disponible. Bible Labs et tous les autres sont des produits qui restent disponibles. Je mettrai les liens sur le site pour vous permettre justement d'aller voir un petit peu, d'aller tester par vous-même ces différents logiciels. Mais concrètement, pourquoi est-ce qu'il est intéressant de travailler sur RAW? Mais je crois qu'il y a autant de bonnes raisons de travailler en RAW que ce qu'il y a de photographe. Mais je peux vous parler de mon expérience personnelle. Et pour ma part, je travaille en RAW parce que je trouve que c'est le format qui me permet de travailler le plus vite. Entre la prise de vue et l'enregistrement d'un JPEG, votre appareil applique toute une série de traitements à l'image qui a été prise par le capteur. Ces traitements vont construire l'image, la révéler quelque part, mais ils entraînent aussi la destruction de beaucoup d'informations qui avaient pourtant été saisies par le capteur. Pourquoi est-ce que je parle de perte de temps? Eh bien parce que les traitements que l'appareil applique pour construire le JPEG sont des traitements sur lesquels je veux avoir un contrôle fin en post-production. Corriger les couleurs, corriger le contraste, corriger la luminosité, régler l'accentuation, etc., etc. Donc, dans son traitement pour construire le JPEG, l'appareil a déjà appliqué tous ces traitements. Et quand je rouvre le fichier dans Photoshop, j'ai une information qui a déjà été traitée. Et si je ne suis pas content des réglages qui ont été faits, eh bien, je vais devoir être très attentif en venant remettre une deuxième couche de correction, parce qu'évidemment, cette deuxième couche de correction, elle peut très vite amener à des images qui sont aberrantes ou qui ne sont pas très très belles. À l'inverse, en travaillant en RAW, l'appareil n'applique aucun traitement. Il prend directement le résultat brut du capteur et il l'enregistre dans un fichier. Les traitements sont à appliquer par après, sur l'ordinateur, en ayant tout le temps qu'on souhaite pour peaufiner les réglages et surtout en ayant à sa disposition toutes les données enregistrées par le capteur et non pas des données qui ont déjà été une première fois pré-mâchées. Donc le résultat, c'est que si je veux appliquer une correction un petit peu sévère, si je veux appliquer un traitement un petit peu sévère, comme j'ai toutes les données du capteur, je peux le faire et j'ai un résultat qui va rester beau. Donc, grâce à ça, en final, je gagne beaucoup de temps parce que je peux appliquer beaucoup plus vite les traitements que je souhaite. Alors on n'a rien sans rien. L'inconvénient des fichiers RAW, c'est qu'ils sont plus gros que les fichiers JPEG. Donc ça veut dire qu'il faut des cartes mémoire plus importantes. Et ça veut dire que quand on archive les photos, il faut prévoir plus de CD ou plus de disques durs. À mon sens, par rapport au gain de confort que ça apporte, par rapport au gain de vitesse que ça apporte, c'est tout à fait justifié, mais je peux comprendre que d'autres fassent d'autres choix. C'est vrai que la taille a d'autres inconvénients, ça veut dire aussi que les rafales seront plus courtes par exemple. De nouveau, oui, ça peut être un problème pour certains styles de photographie, mais par rapport à mon travail, ça ne me pose vraiment aucun problème, j'ai rarement besoin de faire de grandes rafales. Donc ce que je vous invite à faire, si jusqu'à présent vous travaillez en JPEG, profitez des vacances pour télécharger un des logiciels de traitement RAW et faire quelques essais en RAW. Et si vous travaillez déjà en RAW, jetez un œil à Lightroom d'Adobe parce que c'est vraiment un produit très très bien conçu. La manière par exemple dont il permet de construire une courbe, elle est pas immédiatement intuitive, mais quand on a compris la logique, c'est vraiment un gain de temps, un gain de qualité de traitement tout à fait remarquable. Donc ça vaut la peine de regarder à ce produit. Deuxième segment, l'exposition. On est au mois d'août, sans les vacances, et donc je propose de traiter des sujets qui sont à la fois fondamentaux pour la photographie, mais en même temps des sujets qui sont plus légers dans le traitement, des sujets qui n'emmènent pas des épisodes très touffus, comme j'ai parfois fait dans le passé. Dans cet épisode, je propose de traiter de l'exposition, et dans l'épisode suivant, je traiterai de l'archivage. L'exposition, c'est un sujet fondamental, parce que c'est la base du succès d'une photo. Vous le savez, photographier, ça signifie écrire avec la lumière. Photo signifiant lumière, graphie signifiant écrire. Eh bien, on peut dire que l'exposition, c'est l'encre du photographe. Au jour d'aujourd'hui, à l'époque de la mesure matricielle couleur 3D deuxième version, et de façon plus générale à l'époque des mesures multisegments, l'exposition, a priori, ça devrait être un non-sujet en photo. On peut franchement faire confiance à nos appareils, et sauf dans des cas extrêmes, ils délivrent des photos correctement exposées. Donc c'est vrai, mais ça veut dire que l'exposition reste, ou je dirais même devient de plus en plus un outil créatif. Devient de plus en plus parce que grâce à ces cellules, grâce à ces systèmes de mesure de lumière très sophistiqués, on peut vraiment se permettre de se concentrer sur un aspect créatif et laisser à la cellule le soin de faire tous les calculs et de veiller à ce que l'exposition reste correcte. En plus, elle le fait en temps réel, donc même dans des conditions de luminosité changeante, elle va arriver à exposer l'image correctement. Il y a plusieurs aspects créatifs à l'exposition. Par exemple, on peut travailler sur la surexposition, la sous-exposition partielle ou totale de l'image pour obtenir des effets créatifs. Mais je vais me concentrer dans cet épisode sur les quatre paramètres de base de l'exposition et comment la combinaison de ces paramètres va nous permettre d'obtenir des effets créatifs. Donc je fais l'hypothèse que vous voulez l'exposition correcte telle que mesurée par l'appareil, ou que si vous estimez qu'il y a lieu de surexposer ou de sous-exposer, vous avez enclenché une correction d'exposition, ce qui fait que l'appareil s'en occupe. Les quatre paramètres de l'exposition sont l'ouverture de diaphragme, la vitesse d'obturation, la sensibilité du capteur ou du film et l'apport de lumière extérieure, par exemple avec un flash. Ces paramètres, ils existent sur tous les appareils, depuis les jetables de base jusqu'aux réflexes numériques très haut de gamme. La différence, c'est la flexibilité. Avec un jetable, les paramètres sont fixes. Et donc, si vous voulez changer un des paramètres, vous devez changer l'appareil. Par exemple, prendre un autre appareil avec une pellicule plus sensible. À l'inverse, avec un réflexe, vous avez de la totale liberté de faire varier les paramètres, je dirais presque à l'infini, et dans toutes les combinaisons possibles. Les compacts se situent la plupart du temps entre les deux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un choix de valeur plus restreint pour les paramètres, ou vous serez obligé de faire varier deux paramètres en même temps via des modes préprogrammés. D'un point de vue de la créativité, c'est pas nécessairement un blocage, vous avez quand même la possibilité de mettre en œuvre la plupart des techniques qu'on va présenter dans l'épisode. Examinons ces quatre paramètres. Le principe de l'exposition, c'est très simple. L'appareil photo est une chambre noire, de plus en plus bardée d'électronique, mais essentiellement c'est une boîte dans laquelle la lumière ne rentre pas, sauf quand on appuie sur le déclencheur et qu'une ouverture se fait, via ce qu'on appelle l'obturateur, pour laisser rentrer une quantité donnée de lumière. Le but de l'exposition, c'est que la quantité de lumière qui va rentrer et qui va venir former une image sur le capteur ou sur le film, soit telle que l'image ait des tons correspondant exactement au ton du sujet. Donc ça veut dire que ce qui était blanc dans le sujet sera blanc sur la photo, ce qui était noir soit noir, et ce qui était gris sera bien gris, avec les mêmes tonalités de gris. La base de la créativité, c'est que pour obtenir une exposition correcte, c'est-à-dire une exposition où les tons sont corrects par rapport au sujet, on va pouvoir faire varier nos quatre paramètres. Et le point important, c'est qu'il y a plusieurs combinaisons de paramètres qui vont nous donner la bonne exposition, la même exposition. Donc on va pouvoir utiliser plusieurs combinaisons de paramètres pour obtenir la même exposition. Mais, et c'est ça qui est créatif, l'image, elle, ne sera pas la même. En effet, chaque paramètre va influencer la photo différemment. Commençons par le premier de ces paramètres, l'ouverture du diaphragme. L'ouverture du diaphragme, c'est la taille de l'ouverture par laquelle la lumière va passer. Et on comprend aisément que plus l'ouverture est grande, mais plus il va y avoir de la lumière qui va rentrer. Si on imagine une pièce avec une toute petite fenêtre, la pièce va être sombre. Si on remplace cette petite fenêtre, on abat un mur et on place une belle grande baie vitrée, évidemment la pièce va être beaucoup plus éclairée. C'est le même principe pour le diaphragme. Il peut s'ouvrir ou se fermer pour laisser rentrer plus ou moins de lumière. Si le principe, plus l'ouverture est grande, plus il y a de la lumière qui passe, il est simple à comprendre, la difficulté avec le diaphragme, c'est de comprendre comment on mesure cette ouverture. parce qu'on la mesure comme étant un ratio entre la focale de l'objectif et le diamètre de l'ouverture. Donc par exemple, pour un objectif de 50 mm, imaginons que l'ouverture fasse 12,5 mm, eh bien on dira que l'objectif est ouvert à f4. Parce que 50 divisé par 4, ça fait 12,5 mm. Pour le même objectif, si l'ouverture n'était que de 4,5 mm, on dira qu'on est à f11, parce que c'est le ratio. Et donc ça veut dire que pour une ouverture plus petite, 4 mm au lieu de 12 mm, donc pour moins de lumière qui rentre, la valeur du diaphragme elle est plus grande. Donc moins il y a de lumière qui rentre, plus le ratio est élevé. Alors en pratique, c'est pas très important et vous n'avez même pas à retenir ce ratio, parce que de nouveau, la cellule va le gérer pour vous. Sur nos appareils, généralement, les objectifs partent soit de f2.8, soit de f3.5 et montent jusqu'à à peu près f22. On trouve des objectifs plus spécialisés qui peuvent ouvrir plus grand, par exemple f1.8, f1.4, et les objectifs macro peuvent fermer davantage f32 ou f45 pour des tas de bonnes raisons. Mais ce sont des objectifs plus spécialisés, donc généralement plus chers. Le côté créatif du diaphragme, c'est qu'il influence la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la zone de netteté autour du point sur lequel on a fait la mise au point. Et donc, on va pouvoir utiliser une profondeur de champ faible, par exemple, pour faire ressortir notre sujet de son environnement. Si la mise au point est telle que seul le sujet est net et tout ce qui l'entoure, tout l'environnement derrière est flou, donc on a une petite profondeur de champ puisqu'elle ne couvre que le sujet, eh bien évidemment le sujet va être la partie de la photo qui va attirer le regard. Si à l'inverse on a une grande profondeur de champ, eh bien a priori l'œil va vouloir regarder l'ensemble de la photo. L'ouverture de diaphragme n'est qu'un des trois paramètres qui contrôlent la profondeur de champ. Les deux autres paramètres sont la focale, c'est-à-dire savoir si on utilise un télé ou un grand angle, et la distance entre le photographe et son sujet. Mais évidemment, varier les deux autres paramètres, ça change le cadrage et la composition. Donc c'est bien sur l'ouverture du diaphragme qu'on va jouer pour, à composition donnée, pouvoir faire varier la profondeur de champ. La règle, heureusement, ici, elle est simple à retenir, et pour une fois, le diaphragme se comporte comme on s'y attend. Plus le nombre est élevé, plus la profondeur de champ est importante. Donc ça veut dire par exemple que F11 donne une profondeur de champ plus importante que F8, F16 donne une profondeur de champ encore plus importante. Le deuxième paramètre sur lequel on va jouer, c'est la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est le temps, la durée pendant lequel l'obturateur va rester ouvert. Plus il est court, moins il y aura de lumière qui va rentrer. Pensez à la pièce de nouveau. Si j'ouvre et je ferme très vite les rideaux, ben, il n'y a pas beaucoup de lumière qui est rentrée. Par contre, si je les ouvre, je pars boire une tasse de café, ben, il y aura beaucoup plus de lumière qui va rentrer dans la pièce. On mesure la vitesse d'obturation en fraction de seconde, 1/30 de seconde, 1/60 de seconde, 1/125 de seconde, etc. On va parfois la mesurer en seconde, on va rarement la mesurer en minutes parce qu'on a rarement des expositions qui durent plusieurs minutes. Le côté créatif de la vitesse, c'est qu'elle va nous permettre de déterminer le flou de bouger ou le flou de mouvement du sujet. Le flou de bouger, a priori, c'est quelque chose qu'on veut éliminer parce que c'est pas flatteur. Le flou de bouger, c'est le tremblement du photographe parce que quand on tient l'objectif, quand on tient l'appareil, on n'est pas parfaitement stable. Et il y a une règle très simple pour l'éliminer, la règle classique, c'est de dire qu'on veut adopter une vitesse de 1 sur la focale. Donc par exemple, avec un petit télé de 100 mm, eh bien on va prendre 1/125 de seconde comme vitesse au minimum pour être sûr de ne pas avoir de flou de bouger. En pratique, la règle va dépendre un petit peu de la tenue en main, de la fatigue, etc., de la présence sur l'appareil d'un système de stabilisation qui compense un petit peu les mouvements, donc ça va dépendre. Évidemment, pour éviter tout problème de flou de bouger, la solution, c'est de prendre mon accessoire préféré, le trépied. Vous montez l'appareil dessus, il est parfaitement stable et vous n'aurez aucun flou de bouger. Comme toujours, en matière de créativité, il y a la règle et la contre-règle. Donc, parfois, on va vouloir créer un flou de bouger. Par exemple, quand on va suivre un sujet en mouvement. Ça fait sans doute déjà vu ces photos de voiture où la voiture est nette et elle se déplace dans une route et on voit en fait que la route, elle est floue et il y a un flou de mouvement sur la route. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi avec l'appareil la voiture, et donc elle est restée au même endroit dans la photo, donc elle est nette. Par contre, la route, elle s'est déplacée par rapport à l'appareil photo, et donc elle apparaît floue, elle apparaît comme une grande traînée. Ça peut donner des photos très amusantes, très agréables la nuit. L'autre aspect, c'est évidemment le flou des mouvements du sujet. Si on veut conserver, si on veut introduire un certain flou de mouvement, eh bien on va privilégier une vitesse qui sera basse par rapport au mouvement du sujet. Et donc on va s'en servir, par exemple, pour suggérer un mouvement. Par exemple, un sujet en train de danser, si on le photographie à une vitesse suffisamment lente, eh bien, on aura des traînées autour des mouvements, et ces traînées, ben, ça va suggérer le mouvement du sujet. À l'inverse, parfois, on va vouloir figer le sujet. En sport, par exemple, souvent, on veut figer l'athlète en train de courir, et comme on le fige, on va, à l'inverse, utiliser une vitesse très très élevée. A priori, pour les sujets immobiles, la vitesse n'a pas d'importance, si ce n'est pour éviter le flou de bouger, le flou introduit par le photographe. Un château, par exemple, ne bouge pas. Donc a priori, il n'y a pas de souci, on peut prendre n'importe quelle vitesse d'exposition pour le photographier. Mais là aussi, on va pouvoir utiliser parfois la vitesse pour produire une exposition intéressante. Par exemple, en mettant l'appareil sur un trépied et en exposant pendant un temps relativement long, ce qu'on aura comme effet, c'est que les visiteurs qui se déplacent autour du château, les touristes, eh bien, vont être, eux, floutés. Donc le résultat, c'est que le sujet principal sera net, puisqu'il n'a pas bougé, mais les sujets parasites, je dirais, eux, sont devenus flous et donc vont être moins gênants sur la photo. Le troisième paramètre de l'exposition, c'est la sensibilité. Et la sensibilité, elle indique les besoins du capteur. Les deux premiers paramètres contrôlent la quantité de lumière qui rentre dans la boîte noire. La sensibilité indique la quantité de lumière dont le capteur ou le film a besoin pour former l'image. Plus le capteur va être sensible, moins il aura besoin de lumière pour former la même image. Et on mesure la sensibilité en ISO, et le principe c'est que plus le chiffre est grand, ben moins le capteur a besoin de lumière. ISO 50, ISO 100, ISO 200, etc., etc., jusqu'à 1600, voire 3200. La sensibilité n'apporte aucun élément créatif. Elle ne fait qu'entraîner du bruit dans l'image. Plus le capteur est sensible, plus le film est sensible, plus l'image sera bruitée. Donc la sensibilité, on s'en sert comme un joker qu'on va utiliser quand on ne peut plus faire varier les autres paramètres. Par exemple, vous voulez photographier un coureur et vous voulez figer son mouvement. Donc vous savez que vous avez besoin de le photographier au 1/500 de seconde, par exemple. Mais on est en fin de journée, il n'y a plus assez de lumière. Et donc, même en ouvrant votre diaphragme à fond, vous n'arrivez pas à avoir une exposition correcte qui vous permette de faire du 0,005 de seconde. Eh bien, vous allez pouvoir augmenter la sensibilité. Passer par exemple de 100 à 400 ISO pour vous donner le petit surcroît de flexibilité nécessaire et atteindre le 0,005 de seconde. Le côté négatif, c'est que le bruit va monter. La photo sera plus bruyante. Mais je trouve personnellement qu'il vaut mieux une photo bruyante que pas de photo du tout. Puisque je parle de la créativité et du bruit, je serais tout à fait incomplet si je ne disais pas qu'en argentique, on utilisait parfois des films assez bruités, des films à haute sensibilité, justement parce qu'on estimait que ce bruit, qu'on appelle le grain, donnait un certain cachet à l'image. Deux bémols. D'abord, le public dans son ensemble a changé dans ses goûts, et de plus en plus, il préfère des photos non bruitées ou peu bruitées. C'est pas vrai dans la communauté des photographes, qui reste toujours sensible à la beauté du grain, mais c'est de plus en plus vrai dès qu'on sort de la communauté des photographes. Deuxième bémol, si vous voulez introduire du bruit, si vous voulez introduire du grain dans l'image pour effectivement lui donner un cachet, ben vous aurez un bien meilleur résultat en travaillant dans Photoshop. Vous aurez beaucoup plus de contrôle pour ajouter précisément le cachet dont l'image a besoin. Une technique très simple et très efficace pour obtenir un bruit plaisant, c'est de créer un calque avec une courbe et sur le masque de ce calque de venir insérer du bruit. Le résultat, c'est que grâce à la courbe, en fait, le bruit sera réparti différemment selon qu'on est dans des zones sombres ou dans des zones de haute lumière. Ce qui est la manière dont le film, en fait, introduisait le grain. Et le résultat sera beaucoup plus naturel et donnera un cachet très très plaisant. Mais le gros avantage par rapport au film, c'est qu'en faisant varier la courbe, vous allez pouvoir décider précisément de la quantité de grain que vous allez introduire dans l'image et donc précisément du cachet dont l'image a besoin. Le quatrième paramètre, c'est l'apport de lumière extérieure, par exemple à l'aide d'un flash. Le flash ou l'apport de lumière extérieure change très profondément l'image. Et donc pour vraiment couvrir ce sujet-là, il me faudra un épisode plus touffu que ce que je souhaite faire au mois d'août. Donc je vais simplement pour le moment laisser ce paramètre sur le côté. Ça c'est la théorie. Concrètement, comment est-ce qu'on va utiliser l'exposition de manière créative? Mais il y a deux grandes techniques. Soit on va travailler avec les modes scène, soit on va travailler avec les modes priorité. Les modes scène, c'est quelque chose que les constructeurs ont introduit depuis une dizaine d'années et qui cherche à simplifier l'expression justement des paramètres de l'exposition. L'idée, c'est que le mode scène fait un peu anti-sèche. Au lieu d'avoir à retenir précisément par rapport à ce que je veux faire ici, quel est le paramètre sur lequel je dois jouer, quelle est la valeur que je dois adopter, on dit à l'appareil que je veux faire une photo typée sport, par exemple. Une photo typée sport, ça veut dire une photo où on fige le mouvement. Et donc, ce faisant, l'appareil va tout seul savoir, puisqu'on veut figer le mouvement, il faut une vitesse d'obturation élevée, et donc il va privilégier dans l'exposition des vitesses d'obturation élevées. De la même façon, la scène portrait, généralement pour un portrait, ce qu'on veut, c'est une faible profondeur de champ, comme je le disais tout à l'heure, pour faire ressortir le sujet par rapport à l'environnement. Eh bien, quand on choisit la scène portrait, l'appareil privilégie de grandes ouvertures de diaphragme pour justement minimiser la profondeur de champ. La scène paysage, à l'inverse, indique qu'on veut une grande profondeur de champ, qu'on veut le maximum de la scène qui soit nette. Et donc, l'appareil va privilégier de petites ouvertures de diaphragme. La scène paysage nocturne, elle signifie la même chose, plus le fait qu'on a stabilisé l'appareil. On l'a mis sur un trépied, on l'a mis sur un sac de haricots, et donc ça veut dire que l'appareil va pouvoir adopter des vitesses d'obturation lentes pour obtenir justement le petit diaphragme. Donc vous voyez qu'en fait, en sélectionnant la bonne scène, par rapport aux conventions traditionnelles de la photographie pour le portrait, pour le sport ou pour le paysage, eh bien on donne à l'appareil l'information dont il a besoin pour faire les bons réglages de l'exposition. Sans ça, ben l'appareil en mode purement automatique, il se contente d'essayer de faire une bonne exposition, mais il ne sait pas s'il doit privilégier vitesse ou ouverture de diaphragme. En pratique, les scènes peuvent influencer d'autres paramètres que l'exposition. Par exemple, sur certains appareils, la scène sport entraîne un autofocus plus nerveux. Et évidemment, il y a souvent beaucoup plus de choix que les quatre que j'ai couverts ici. Donc, reportez-vous au manuel, déterminez dans l'ensemble des choix qui vous sont proposés lesquels sont utiles. Et puis, faites quelques expérimentations pour les mettre en œuvre. Ce qui est important, c'est que les scènes donnent un typage de la photo. Mais ce typage peut s'appliquer à d'autres cas. Donc, par exemple, sport, ça veut dire des photos où on va figer le mouvement. Ben, ça s'applique également quand on photographie des enfants en train de jouer, par exemple. Autour du mode scène, il y a une variante qui se situe un petit peu entre le mode scène et les modes priorité, qui est ce qu'on appelle le mode multiprogramme ou le mode P. L'idée en mode P, c'est que l'appareil calcule l'exposition correcte comme en mode automatique, mais à l'aide d'une molette, vous pouvez varier les paramètres vitesse d'exposition ou taille de l'obturation. Donc par exemple, si l'appareil a calculé une exposition 1/125e f11, et vous savez que votre sujet est très mobile, donc il faut une vitesse plus élevée, vous tournez la molette et l'appareil va faire défiler la vitesse jusque par exemple 1/500e. Et il va automatiquement compenser en ouvrant le diaphragme. Comme toujours, j'insiste dessus à chaque fois, il faut raison garder, il n'est pas obligatoire d'appliquer ces techniques à chaque photo, mais l'appliquer aux photos qui en fait méritent cet aspect créatif. Les modes scène, il faut le reconnaître, ils ont mauvaise presse. Ils sont souvent snobés comme étant des modes pour débutants. Je crois franchement que c'est injuste parce que les débutants, ils restent en mode automatique et ils n'essayent pas d'être créatifs autour de l'exposition, mais bon, effectivement, il y a ce snobisme qui existe. Personnellement, j'ai été élevé à l'ancienne école, avant l'apparition des modes scène, et donc je ne m'en sers pas. Et en plus, un de mes boîtiers, le D200, n'est même pas équipé de modes scène. J'utilise toujours les modes priorité. Et en final, c'est vrai qu'ils sont pas plus compliqués à mettre en œuvre que les modes scène. Le principe du mode priorité, c'est qu'on règle un des paramètres, la vitesse ou l'ouverture, et on laisse l'appareil décider des autres paramètres. En général, mon appareil est en priorité ouverture, parce que le plus important pour la plupart de mes photos, c'est de contrôler la profondeur de champ. Avec l'expérience, je dois dire que je trouve le mode priorité tout à fait intuitif. Si par exemple je fais un portrait, je sais que je veux peu de profondeur de champ, donc je vais simplement tourner la molette jusqu'à arriver à une petite valeur d'ouverture de diaphragme. Par exemple f5.6, mais la bonne valeur va dépendre de la focale, va dépendre de la distance, comme je le disais tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon sens, c'est pas beaucoup plus compliqué de tourner la valeur jusqu'à f5.6 plutôt que de choisir une scène. Mais ce qui est important, c'est de faire le geste de prendre le contrôle de l'exposition pour son côté créatif. Donc choisissez la technique qui est la plus efficace pour vous, mais prenez le contrôle de l'exposition. À côté du mode priorité ouverture, il y a le mode priorité vitesse, où là on fixe la vitesse et on laisse l'appareil régler les autres paramètres. Dans ma pratique, je l'utilise quand le sujet le réclame. Et donc par exemple, pour certaines photos de ma fille en train de jouer, elle a tendance à partir en courant, donc il vaut mieux être sûr que j'ai une vitesse minimale qui est suffisante. J'utilise aussi par exemple pour photographier des spectacles, pour être certain de ne pas descendre à des vitesses où j'aurai un flou de bouger. Donc si j'utilise une focale, mettons à 100 mm, eh bien je vais mettre une priorité vitesse sur le 1/125e. Le troisième paramètre, la sensibilité, j'utilise comme étant un joker. Je n'aime pas laisser l'appareil faire varier la sensibilité parce qu'avec la sensibilité, il y a une augmentation du bruit. Et donc j'aime autant fixer par avance la sensibilité la plus basse possible, tenue compte de la luminosité ambiante. Donc par exemple, en intérieur, je vais fixer du 400 ISO, en extérieur du 100 ou du 200 ISO. Si je travaille au flash, je prends la sensibilité la plus basse possible. Par contre, je trouve qu'il y a un cas où il est très utile de laisser l'appareil varier la sensibilité, ce sont les spectacles. Dans les spectacles, on a souvent peu de luminosité ambiante et en même temps, elle est très très variable. Si un spot s'allume, la scène est complètement changée. Dans ce cas-là, j'aime bien fixer la vitesse pour être certain d'éviter le flou de bouger et je veux en même temps contrôler ma profondeur de champ. Donc je veux fixer le diaphragme. Donc le résultat, c'est qu'il ne reste que la sensibilité pour varier et obtenir l'exposition correcte. Donc ce que je fais, je passe en mode manuel, je fixe la vitesse et l'ouverture de diaphragme désirée et je passe l'appareil dans un mode dans lequel il peut varier la sensibilité pour assurer l'exposition correcte. Au demeurant dans le match numérique argentique, numérique 1-0, parce qu'essayer de faire ça en argentique, c'était impossible. Voilà, ça c'est ma manière de travailler, mais je vous invite à partager vos expériences, vos astuces et vos conseils via la zone de commentaires. Je voudrais conclure avec une observation. Les fabricants nous vendent de plus en plus des objectifs qui ne sont pas très lumineux. Si on regarde les objectifs des compacts ou des kits qui sont livrés avec les réflexes, on a des objectifs qui ouvrent à 3,5, à 4 parfois, Et qui plus est, l'ouverture est glissante et très vite on se retrouve à 5-6-6, un diaphragme complet de perdu. Et comme souvent ces objectifs, il faut les refermer d'un ou deux diaphragmes par rapport à leur maximum pour avoir un piqué élevé, mais ça veut dire que en pratique, on a vraiment une plage de diaphragme utilisable qui est très très réduite. Alors je veux pas dire que ces objectifs sont mauvais, ils ont leur utilité. En voyage par exemple, ils sont formidables parce qu'ils sont petits, ils sont légers. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir facilement les emporter. Généralement, quand on est en voyage, il fait beau, donc on n'a pas trop de problèmes de luminosité. Mais de retour au pays, je trouve que ce sont des objectifs qui sont très très limitatifs dans la plage de diaphragme qu'on va pouvoir utiliser. Et le résultat, c'est qu'en fait, on s'est privé d'un aspect créatif. Si vous avez un réflexe et que vous n'avez jamais goûté au plaisir d'un objectif lumineux, donc un objectif qui va ouvrir à f2.8 ou au-delà, je vous invite à acheter le 50 mm de votre marque. Les 50 mm sont des objectifs très faciles à produire, donc ils ne sont pas chers. Et pour une centaine d'euros, vous aurez un 50 mm f1.8. Un f1.8, c'est un objectif qui laisse rentrer plus de 4 fois plus de lumière qu'un f4. Donc ça veut dire qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineux que les objectifs fournis en kit. Évidemment, c'est une focale fixe. Évidemment, c'est moins impressionnant qu'un gros télé. Mais ce sont vraiment des objectifs plaisir. Parce que le côté très positif des 50 mm, c'est que ce sont des objectifs faciles à produire, et donc ils sont pas chers, mais ils sont d'une très très bonne qualité optique. Et un 50 mm sur un numérique, ça devient un petit télé. Donc ça veut dire que ce sont des objectifs qui sont magnifiquement adaptés au portrait. Ce n'est que du bonheur. Troisième segment donc, vos réactions et vos commentaires. Pour laisser un commentaire, une suggestion, un message d'encouragement, vous avez deux formules. Soit vous visitez le site www.déclencheur.com et vous laissez un commentaire texte. Soit vous utilisez la boîte vocale. La boîte vocale est gérée par la société VoxUp et elle est très pratique parce qu'il ne faut aucun matériel informatique. En France, vous appelez le 08 92 23 03 22 à 34 centimes d'euros la minute et vous saisissez le code service 8208. En Belgique, vous appelez le 0902 88 128 à 74 centimes d'euros la minute et vous saisissez le code service 8208. En Suisse, vous appelez le 0901 701 705 à 2,50 francs la minute, et vous saisissez le code service 8208. Attention, vous devrez confirmer votre commentaire, donc prenez bien la peine d'écouter les instructions. Les commentaires vocaux seront évidemment repris sur le site et repris dans le podcast. Avant de développer les commentaires reçus, je voudrais vous annoncer le nouveau sondage. Donc l'idée est la même que la dernière fois. Collectez vos avis sur les thèmes qu'il faudrait traiter dans les prochains épisodes. Le dernier sondage remonte à l'épisode 4. Avec le prochain épisode qui va traiter de l'archivage, j'aurai traité des deux thèmes gagnants dans le sondage de l'épisode 4. Qui plus est, on a considérablement remonté le nombre d'abonnés depuis cet épisode, et donc je voudrais donner une chance à tout le monde de donner son avis sur les thèmes à traiter dans Déclencheur. Donc le sondage est en ligne, il y a un lien depuis l'épisode courant. Je vous invite, comme la dernière fois, à lire la liste des sujets et à laisser vos sujets, vos votes, dans les commentaires. Vous verrez qu'un certain nombre de sujets ont été proposés par Nicolas Esposito, qui avait fait l'interview sur le cadrage dans l'épisode numéro 6. Nicolas s'y gentiment proposé pour venir traiter un certain nombre de thèmes sur Déclencheur. Et donc l'avantage de choisir ces thèmes, c'est que vous savez que le traitement se fera en duo, Nicolas et moi. Quelques nouvelles de l'opération carte promotionnelle lancée dans l'épisode précédent. Vous en souviendrez, l'idée était de m'aider à faire connaître Déclencheur en distribuant autour de vous des cartes promotionnelles. L'opération a été un vrai succès puisque vous avez distribué plus de 50 lots de cartes sur la France, la Belgique, la Suisse, le Maroc et Monaco. L'opération continue, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y participer, vous pouvez simplement vous rendre sur www.déclencheur.com et vous suivez le lien vers les cartes promotionnelles. Un tout grand merci pour votre soutien. Pas directement un commentaire, mais Le Soir, qui est un grand quotidien belge, a parlé de Déclencheur et en a parlé dans des termes très très élogieux. Merci à eux pour cet article très très sympathique. Jaco a laissé un commentaire pour m'attirer mon attention sur l'article, merci Jaco. Différents messages d'encouragement reçus de la part de Golimbo, de Jean Cossin. Jean Cossin a rencontré Pierre-Yves Delnogar que j'avais interviewé dans l'épisode numéro 5. Et Villard est iconiste et s'intéresse en particulier à la macro. Merci à vous trois pour ces messages d'encouragement. Ça me fait toujours très plaisir quand les auditeurs prennent la peine de laisser un petit message pour me pousser dans le dos et m'inciter à continuer ces épisodes. Dans les commentaires reçus, trois concernent des questions techniques. Commençons par celle de Jacques Portal. Jacques utilise fréquemment la technique du calque de niveau que j'avais présenté dans l'épisode 3 et qui permet de corriger la balance des blancs. Il indique qu'il n'est pas tout à fait satisfait du résultat obtenu et en particulier quand il travaille avec des éclairages mixtes, c'est-à-dire un combiné de lumière artificielle et un combiné de flash. Je veux dire que c'est normal. Corriger un éclairage mixte, c'est compliqué. La solution la plus simple, c'est d'éviter l'éclairage mixte en mettant un filtre de couleur, un gel, sur le flash à la prise de vue pour que le flash donne un éclairage qui a la même couleur que l'éclairage ambiant. Et donc le résultat, c'est qu'il n'y aura plus qu'une seule balance des blancs à prendre. Les autres techniques, ça consiste à détourer des morceaux d'image en fonction de l'éclairage reçu et à combiner toute une série de corrections. C'est long et c'est très très fastidieux à faire. Jacques a constaté qu'en passant en mode CMJN, c'est-à-dire le mode qu'on utilise pour l'édition et la presse, le résultat était différent et plus flatteur. Il me demande pourquoi, est-ce que c'est normal, et est-ce qu'en faisant ça, je dégrade l'image? Il faudra un épisode pour donner une réponse complète à ce sujet, et c'est d'ailleurs dans la liste des épisodes que j'aimerais couvrir un jour, mais en deux mots, ce qui se passe, c'est qu'en basculant en CMJN, Jacques a changé de référentiel. Photoshop calcule les couleurs différemment entre le RVB et le CMJN. Une seule différence à noter, c'est que le RVB est un mode de couleur additif, alors que le CMJN est un mode soustractif. C'est la même différence qu'on trouve entre le cinéma et l'imprimé, par exemple. Et donc la correction qu'on applique dans un mode ou dans l'autre ne porte tout simplement pas sur les mêmes variables. Et donc ça va expliquer qu'il y a un changement qui est visible. Quant à savoir si ça dégrade l'image, techniquement oui. Le fait de changer de mode et de revenir après en RVB va faire perdre de l'information. Maintenant, si esthétiquement la photo est plus plaisante après le passage en mode CMJN, je dirais que la photo n'a pas été dégradée, que du contraire. Jacques termine son commentaire en précisant qu'il travaille avec un modeste, ce sont ses propres termes, Canon G5, avec lequel il prend beaucoup de plaisir. Et là, je voudrais mettre une petite réaction. Personnellement, je crois que de toutes les variables qui vont influencer l'image, l'appareil photo est celui qui a le moins d'impact. Sauf évidemment si l'appareil est défectueux. Par là, je veux dire non pas que l'appareil n'a pas d'impact sur l'image, mais qu'il y a beaucoup d'autres paramètres sur lesquels on peut travailler avant de commencer à travailler sur l'appareil. Et sur le fond, j'essaye de cibler Déclencheur à un public d'appareils photo aussi large que possible. Quel que soit votre appareil, je parle de compact, je parle de réflexe, j'essaie de couvrir le panel le plus large possible. Maintenant, il est clair que les réflexes numériques Nikon sont les appareils que je connais le mieux, et donc c'est un petit peu mon référentiel. Michel D. m'interroge sur la manœuvre pour copier-coller la valeur de la balance des blancs quand on photographie une charte neutre, une technique que j'avais présentée dans l'épisode 1 et qui permet de photographier une charte neutre sur une photo et de la reporter sur l'ensemble de la session. La démarche exacte varie d'un logiciel à l'autre, mais à ma connaissance, tous les logiciels traitant du RAW ont un menu ou un bouton pour assurer cette copie. Quel que soit le logiciel, la technique est toujours la même. Il faut d'abord ouvrir la photo de référence, prélever sa balance des blancs sur la charte neutre à l'aide de la pipette, enregistrer la photo pour sauver la valeur. Ensuite et ensuite seulement, on va pouvoir copier la valeur sur les autres photos de la session. Personnellement, j'utilise Camera Raw et la bêta de Lightroom, et dans les deux cas, on a une option. Dans Camera Raw, c'est une option qu'on trouve dans le Bridge. Dans Lightroom, c'est un bouton Synchronize. Alors, il y a une alternative qui est de faire cette manip dans l'appareil photo. On peut régler la balance des blancs comme étant une balance mesurée dans l'appareil photo. Mais attention, il faut le faire en début de session. Donc c'est beaucoup beaucoup moins flexible que de travailler en copiant-collant. Enfin, une question de Christian. Christian possède d'anciennes photos et d'anciennes DIA et il constate qu'ils se dégradent avec le temps et donc il cherche maintenant à les sauver en numérisant ses photos. Bien sûr, j'ai une collection de films, mais j'avoue que je n'ai jamais pris le temps de regarder à les numériser. Et quand je suis passé en numérique, je suis passé en numérique directement avec un appareil numérique. Donc le résultat, c'est que je n'ai aucune expérience sur la manière de numériser des photos. J'espère que l'un d'entre vous pourra répondre à Christian, et j'espère en plus que vous prendrez le temps de faire une interview sur Déclencheur. Je serai le premier à être intéressé par des explications sur comment scanner qualitativement ces photos. Un petit peu plus tard dans la semaine, Christian m'a envoyé un email pour me montrer une visionneuse qu'il a fabriquée lui-même et qu'il fixe devant son appareil photo et avec lequel il obtient apparemment des résultats beaucoup plus qualitatifs. Donc c'est un bricolage plein d'astuces. Carole de Montauban a écrit parce qu'elle a découvert le podcast qu'elle trouve très bien en premier abord, donc merci Carole. Nous avons ensuite eu un assez long échange de messages avec Carole parce qu'il s'est avéré que les MP3 que je distribue sur le site ne sont pas compatibles avec Windows Media Player. Après pas mal de recherches, il s'est avéré que le problème était un bug référencé par Microsoft dans Windows Media Player, mais j'ai quand même modifié la manière dont je produisais les MP3 pour éviter ce problème à l'avenir. De façon générale, je distribue du MP3 pour essayer de couvrir le plus large panel de lecteurs. Donc si vous avez un problème avec un lecteur donné, faites-moi signe et on verra si on peut corriger le problème. Enfin, Alex B. me félicite pour la qualité du podcast, je l'en remercie. Il ajoute que je devrais davantage mettre l'accent sur la démarche, qu'elle soit artistique ou non, plutôt que purement sur les aspects techniques, c'est-à-dire avoir une photo correctement cadrée, une photo correctement exposée. Je prends bonne note du commentaire parce que c'est un commentaire qui m'interpelle. Moi, j'accorde dans mon travail beaucoup d'importance à la démarche. Et à mon avis, la première étape de la prise de vue, c'est de réfléchir à ce que la photo va vouloir dire. Donc réfléchir au message que la photo va vouloir passer. Ensuite et ensuite seulement, on choisit les techniques qui vont servir ce message. J'essaie de parler de cette démarche chaque fois que le sujet s'y prête, mais c'est clair que tous les sujets ne s'y prêtent pas nécessairement. Mais je veillerai à l'avenir à mettre davantage l'accent sur cet aspect. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur le site www.déclencheur.com. L'abonnement est complètement gratuit. S'abonner à un podcast, ça signifie simplement que vous recevez les nouveaux épisodes automatiquement dès leur parution. Donc vous n'avez pas à surveiller le site. Toutes les infos pour ce faire sont sur le site www.déclencheur.com. Et comme annoncé, le prochain épisode sera consacré à l'archivage.